Chers amis, bonjour. Merci de nous écouter sur le 90.7 RCN Radio Caraïbes ou bien le www.rcn-radio.org pour la bande FM. Marc Page aujourd'hui se déplace. De temps à autre, vous le savez, nous allons à la rencontre de ceux et celles qui font que l'écrit, le livre se porte bien dans notre belle région de Lorraine, qui reste une des grandes terres de la littérature en France. Alors tout le premier jeudi du mois, la bibliothèque de l'AMJC Beauregard et la DIL, l'Association des illustrateurs et écrivains lorrains, s'associent pour recevoir des écrivains, des éditeurs, des diffuseurs, des libraires, enfin, tous ceux qui donc travaillent et font que cet écrit se porte bien en Lorraine. Et il y a quelques jours, la DIL et la MJC Beauregard recevaient Rémi Debord que nous connaissons bien, qui est écrivain mais qui est aussi le responsable, le créateur d'une maison d'édition, Nereia, et Gérard Coppens, qui est un des écrivains phares de ces éditions Nereia, qui venait pour son nouveau livre, la suite du 4x4 au coin de la rue, et qui s'appelle « Les falaises de Buren ». Alors nous allons nous rendre à l'AMJC Beauregard, où nous sommes accueillis d'ailleurs par le président de la DIL, Charles Ancé.
Une maison d'édition Nereia, hein, si je prononce bien, avec Rémi Debord qui est le président fondateur et un des prestigieux écrivains de cette maison d'édition, Gérard Coppens. Voilà. Donc,
c'est moi.
Donc, bon, tant que j'ai la parole, la prochaine réunion, jeudi 1er mars, ce sera Raymond Hiss, qui est un auteur de nouvelles, de romans et de science-fiction. Et pour le mois d'avril, on n'a rien de programmé encore. Voilà. Je donne la parole, je passe le micro.
Bien, ben bonjour, merci d'être venus si nombreux. Donc je suis Rémi Debord, je suis à la fois auteur, romancier, poète, philosophe, plein de choses, et éditeur. Et c'est à ce titre en fait, que je suis ici. Donc d'abord, il faut dire que je suis un récidiviste, puisque j'ai déjà fondé une maison d'édition qui s'appelle Revaline en 2004. J'en ai été le président pendant 7 ans. Et puis j'ai eu quelques divergences sur les lignes littéraires que prenait cette maison. Et du coup, j'ai décidé de quitter la présidence et de fonder une autre maison d'édition, donc qui s'appelle Nereia, que j'ai fondée au mois d'août. Et qui a pour l'instant donc trois projets d'édition, en attendant mieux, puisque j'ai d'autres choses dans les cartons, mais enfin c'est les trois projets qui sont les plus avancés, dirons-nous. Donc, première chose que je voudrais vous dire, c'est que pourquoi fonder une maison d'édition? C'est généralement pour des raisons personnelles. Alors, soit publier soi-même, soit publier quelqu'un de sa famille. Alors, j'ai trouvé dans les archives des éditeurs prestigieux qui ont fait la même chose que moi, c'est-à-dire Ernest Flammarion qui avait publié sa sœur, il avait monté sa maison d'édition pour publier sa sœur. Et Gaston Gallimard, c'était pour publier son ami qui s'appelait André Gide. Bon, là, il n'a pas fait de mauvaise affaire. Et donc, par contre, la sœur de Flammarion, j'ai essayé de trouver ses écrits, ça n'a pas été réédité depuis. Moi, c'était pour publier mon premier roman, et comme j'avais confondé avec un autre auteur, c'était pour publier nos premiers romans. Qui faisait qu'au début, Rebelline, parce que c'était une maison d'auto-édition, en fait, et puis ça, par l'apport de 7 autres auteurs, c'est fini par devenir une vraie maison d'édition, avec un compte d'éditeur, avec tout ce qu'il faut pour satisfaire l'administration française. Alors pourquoi on fonde une maison d'édition? C'est aussi pour des raisons économiques. Quand on voit les professions honteuses qu'on voit sur Internet pour publier un roman, on se dit que, quelque part, il faut être quand même un sacré gogo pour y satisfaire. J'ai vu des cas absolument affolants de gens qui demandaient 3 ou 4 000 euros pour publier 50 bouquins. C'est pas des éditeurs, hein, mais même si c'est marqué sur la réseau social, ce sont des escrocs, tout simplement. Donc, Donc il y avait aussi ce côté, en fait, de se dire que qu'on pouvait faire aussi bien que ces gens-là et pour beaucoup moins cher. Alors j'ai choisi comme forme juridique l'association loi 1901 parce que c'est la forme qui permet de faire du commerce sans trop attirer l'attention de l'administration française et que ça permet également de pouvoir monter très rapidement une entreprise avec juste deux associés et puis de faire en sorte que ça fonctionne après. Alors comme de façon, je ne sais pas s'il y a des auteurs, enfin il y a quelques auteurs parmi nous qui pourront vous le dire que c'est pas dans l'édition qu'on va faire une énorme fortune, donc même si on attire l'attention de l'administration française, ils n'arriveront pas à nous offrir un redressement fiscal très bénéfique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une maison ? Bah, déjà, créer une association, c'est-à-dire être deux, déposer un dossier à la préfecture, ça prend... donc tout est disponible sur Internet, ça prend quelques heures de manipuler tout ça. Il faut après obtenir un numéro d'éditeur et une liste du ISBN. Bah ça, c'est pareil, c'est juste un mail à envoyer à l'administration de l'ISBN et puis on vous envoie généreusement 10 numéros d'ISBN, c'est-à-dire de quoi faire 2 ans dans notre cas, mais de quoi de faire 10 ans peut-être ou 20 ans pour un auteur particulier. Et puis, si on veut faire vraiment pro, bah, on demande aussi un numéro INSEE. Puis après, bah là, il faut convaincre l'administration française qu'effectivement, on ne fera pas de bénéfices. Donc, passons à autre chose. Bon, alors, comment on sélectionne les manuscrits ? Alors, bah, généralement, le comité de lecture est très simple. C'est la directrice littéraire et puis le président. Comme ça, on évite de se disputer. Comme en plus, la directrice littéraire, c'est ma fille. Moins de problèmes. Bon, il faut quand même préciser que la directrice littéraire, c'est une vraie lectrice. Hein. Elle vit au moins, au minimum, un bouquin par semaine, quand c'est pas plusieurs.
D'ailleurs, Gérard peut vous en parler.
Ah oui, puis je peux dire que le résultat est vraiment
voilà.
Sidérant. C'est trois feuilles, 21-27, avec plein d'annotations dessus, paragraphe par paragraphe. C'est vraiment très très bien fait.
Donc elle a effectivement... un esprit de synthèse et un esprit d'analyse un peu particulière. Et surtout, elle se laisse pas du tout entraîner à aucun moment par l'histoire, ce qui lui permet en fait de rester toujours avec la tête froide et toujours analyser l'écriture quelle qu'elle soit. Quoi. Parce que quand on se laisse embarquer, on n'arrive pas à bien juger un texte. Donc moi, comment ça se passe ? Ben, un premier temps, moi je procède comme chez Gallimard. Vous savez qu'il y a il y a une légende, il paraît que c'est pas une légende en plus. Chez Gallimard, quand ils reçoivent un manuscrit, ils disent, quand le manuscrit est lu, ils disent la page 84-85. Et c'est là-dessus qu'ils jugent. Moi, je fais la même chose. Bon, je fais un peu plus de pages quand même. Je fais les premières pages, un petit peu au milieu, puis un petit peu à la fin. Mais ça donne, c'est juste pour avoir une impression en fait, de savoir déjà ce que j'ai reçu, si l'écriture c'est de l'écriture de sixième ou si c'est de l'écriture. CS++, si c'est du Victor Hugo ou si c'est du n'importe quoi. Non mais on juge assez bien en lisant quelques pages au hasard et surtout en fait en lisant des pages au milieu parce qu'en fait l'auteur est sorti de ses inhibitions qu'il y avait dans les premières pages et il n'est pas encore entré dans la routine. Donc ça permet de se faire effectivement une idée. Donc si l'impression est bonne, je lis le texte. Si l'impression n'est pas bonne, une fois que je me suis un peu dit comment que c'était, je donne donc le manuscrit à ma fille, qui elle donc va le décortiquer, et puis après elle va faire une note de synthèse, cette note d'ailleurs qu'on remet après généreusement à l'auteur pour qu'il se fasse une idée de ce qu'on a pensé de lui. Et puis une fois que j'ai cette note de synthèse, si elle me dit bon, oui, effectivement c'est... C'est du sûr, c'est du bon. On va pouvoir en faire quelque chose. Et dans ce cas-là, je le lis moi aussi. Et après, on confronte nos idées. Et puis on arrive en fait à assurer une opinion et à savoir si on va ou pas convoquer l'auteur pour donner une suite. Alors. Effectivement, quand on est quand on est éditeur, on a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Alors ça, c'est un rempart qu'on peut brandir dès que, comme un éditeur sacré pour se défendre justement des mauvais manuscrits. Alors, faut pas confondre la ligne éditoriale et la ligne graphique. La ligne éditoriale, c'est une construction. La ligne graphique, c'est ce que vous voyez, c'est la façon dont sont présentés les bouquins. Donc, c'est généralement des teintes qu'on choisit, des polices de caractère, des faces et des contrefaces qu'on va déterminer. Ça, c'est la ligne graphique, qui est très importante dans une maison d'édition parce que c'est sur cette ligne graphique qu'on va nous repérer. Donc c'est important de ne pas se tromper. Et puis il y a la ligne éditoriale. Alors la ligne éditoriale, c'est pas simple, c'est pas compliqué. C'est ce dont rêve l'éditeur. C'est pas autre chose, hein. Faut pas croire. Ceux qui vous disent que c'est parce qu'ils ont une idée, une haute idée de la littérature, parce que ceci... Non, c'est faux. C'est parce qu'il y a des choses qu'ils aiment, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Et la ligne éditoriale, c'est ce qu'aime l'éditeur. Donc, ça peut être aussi large que possible. Hein. Moi, dans mon cas, je vais de Steinbeck à San Antonio et de Stephen King à Victor Hugo. Vous voyez, ça... Et si un jour j'ai un Steinbeck ou un San Antonio, je publierai. Si j'ai un Victor Hugo aussi, je publierai. Si j'ai un Stephen King, je ne sais pas. Je le rendrai aux Américains. Mais quand même, si j'ai quelqu'un qui écrit comme Stephen King et qui a aussi autant d'imagination, je crois que je le publierai. Donc, vous voyez, c'est grand, hein. Mais c'est surtout, j'ai pas choisi ces auteurs par hasard, c'est parce que déjà c'est des auteurs que j'aime bien, mais c'est surtout leur originalité qui ont marqué la littérature mondiale. On peut pas dire que des auteurs comme Marc Lévy marqueront la littérature mondiale, je ne le pense pas, ou alors il faudrait qu'ils fassent beaucoup d'efforts. Alors que même Frédéric Dard, qui n'est pas forcément connu beaucoup à l'étranger, Il a au moins quelque chose, c'est qu'il a inventé un mode d'écriture, et ça, on ne peut pas lui enlever. C'est le cas d'Alphonse Boudard aussi, qui écrit un peu en vrac et en argot. Mais ce sont des gens qui marqueront en fait au moins l'écriture, au moins française, dans le cas de Frédéric Dard, et l'écriture mondiale dans le cas des autres. Alors évidemment, je ne demande pas tant à mes auteurs, bien entendu, mais je suis toujours à la recherche d'une originalité de style, dans le propos ou dans l'écriture. Et surtout, ce que je demande, surtout, c'est de ne pas m'ennuyer avec un livre qui est bâti avec des courants d'air. Ça, je déteste. Alors, parce qu'un livre, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. Il y a un début, il y a une fin, et tout ce qui se passe entre les deux extrémités, ça doit servir le récit. Si le héros va au supermarché, il faut que dans son caddie, il y ait quelque chose qui serve l'action. Sinon, c'est pas la peine d'ennuyer le lecteur avec une visite au supermarché. Ça, il le fait tous les samedis matins, il n'a pas besoin de dos. Voilà. Ou alors, bon, si c'est inutile, alors là, il faut vraiment que l'auteur soit très très fort. Il y en a quelques-uns qui passent leur vie, en fait, à mettre des fausses pistes dans leur bouquin. Et là, dans ce cas-là, je dis bravo. Continuer, et puis je publierai peut-être. Voilà. Bon, en gros, c'est ça qui définit la ligne éditoriale de Nédéria, c'est un, que j'aime, et puis deux, que ce soit que je m'ennuie pas à le lire. Voilà. Parce que lorsqu'on est éditeur, on reçoit de tout. Et quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Moi, j'ai eu, un jour, il y a un auteur, alors, un auteur présumé, parce que j'ai rien reçu de lui, qui m'a insulté par mail parce qu'il trouvait humiliante la conclusion de la rubrique manuscrit sur mon site, qui se termine par « Il est inutile de joindre une enveloppe pour le retour, nous ne retournons jamais rien. Les manuscrits acceptés restent notre propriété, et les refusés servent à caler les meubles. » Ça l'avait offusqué, ce pauvre garçon. Enfin, c'est une pauvre fille, puisqu'elle signait Panthère. Donc j'ai supposé que c'était une fille, et je lui ai répondu. Elle n'a pas aimé ma réponse, je suppose, parce que... Bon, c'est peut-être un peu violent, mais enfin, c'est vrai, c'est destiné à écarter les médiocres. Malheureusement, ça ne dissimule pas grand monde, puisque je reçois quand même des choses bizarres, des fois. Alors, j'ai eu la rédaction de CM2. Le mec qui racontait ses vacances. Mais qui racontait ses vacances, pas une seule fois. Hein. Il racontait ses vacances, genre, de 2 à 18 ans, quoi. C'est important. Les cabanes dans les arbres, les confitures de la mamie, les vaches qui venaient bouffer les salades du grand-père, enfin, je vous en passe. Bon, ça aurait pu être le blé en herbe, ça aurait pu être un été 42, ça aurait pu être Jeux interdits, non, c'était juste une rédacte de CM2. Alors j'ai vu aussi un auteur que on avait baptisé, qu'on avait, avec ma fille, on l'avait baptisé Marc retourne à l'école. C'était pas tout à fait son nom, mais ça ressemblait un peu à ça. Alors lui, 5 pages, 50 fautes d'orthographe et de syntaxe. Avec des coups de génie. Avec dans son... Alors l'histoire n'était pas complètement idiote. C'était l'histoire d'un chirurgien qui avait inventé une nouvelle méthode de punition pour éviter la prison. C'est il implantait dans le cœur, enfin il bricolait le cœur de façon à ce que les gens, dès qu'ils étaient sur le point de commettre un acte de violence, ils avaient une crise cardiaque. Ça calme. Donc, son idée n'était pas idiote, mais enfin, par contre, la façon dont il l'a écrit, c'était abominable. Alors, par contre, de temps en temps, alors, il mettait des mots absolument fabuleux dans son texte. C'était vachement bien, ça faisait sérieux, ça faisait mec qui avait lu. Sauf que lorsqu'on faisait ce qu'il n'avait pas fait, lui, regarder dans le dictionnaire la définition du mot, on s'était un peu surpris dans le contexte. Et notamment, il avait utilisé le mot étaillir. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'une étaillir. Il avait attribué à une marchande de légumes parce qu'elle criait beaucoup pour vendre ses salades. Il avait trouvé que c'était une étaillir. Ce qui sous-entendait qu'elle faisait pas que le commerce de légumes. Voilà. J'ai eu le droit aussi à un pavé. Mais quand je dis un pavé, c'est un pavé. Hein. C'était 400 pages, format A4, en Times 12, sans beaucoup de retour de ligne et sans grosse marche, qui s'appelle le factum garmacratique. Le factum garmacratique. Alors, c'est la seule chose qui est compréhensible dans le bouquin. Hein. C'est le titre. Il a fallu que je m'applique tout ça, des 400 pages, avant de comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Mais c'était trop tard parce que le bouquin était terminé. C'est impubliable. Enfin, il l'a publié quand même, hein, faut croire. Et pourtant, moi, je suis un spécialiste de SF. Hein. J'ai avalé tout, Van Gogh, Asimov, Frank Herbert, et même Rodobard. Hein. Comme c'est Rodobard. C'est lui qui a écrit La Dianétique. Non, ça vous dit rien ?
La Scientologie.
Voilà, vous avez gagné. Mais c'est un excellent auteur de science-fiction. Hein.
Il a fait...
Non, mais moi, je l'ai lu. Hein. Moi, j'ai lu. Je l'ai lu. Mais c'est un excellent auteur de science-fiction qui a écrit des bouquins... extrêmement trapu, genre 10 volumes.
Il y a pas mal brodé sur sa propre vie. Hein.
Ah ben la Dianétique, oui, tout à fait. Mais mais ces bouquins, c'est un excellent auteur de SF. Mais j'ai eu énormément de mal à procurer ces bouquins de SF parce que en France, c'est introuvable. On trouve la Dianétique uniquement dans leur boutique à eux, mais l'œuvre littéraire, on la trouve pas. Bon. Alors bien entendu, Marc retourne à l'école, les factum grammaticatiques, on trouve un éditeur. Ils m'ont généreusement envoyé un exemplaire publié. Alors évidemment, un éditeur, non, un escroc, hein, qui leur a coûté extrêmement cher. Et puis, il y a un certain nombre de livres complètement vides, sans rien dedans. Ça, on en trouve. On se demande même, d'ailleurs, si l'auteur l'a relu, d'ailleurs, parce que c'est redite, répétition, pléonasme, enfin, tout pour radotage, poncif... reconnu. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, sans aucun fait ni action. C'est juste, Gaïs, il y en a qui s'écoutent parler et lui, il s'écoute écrire. Voilà. Pour illustrer le concept du livre vif, je vais vous parler du roman Œuf à la neige. Vous savez faire des œufs à la neige ? C'est simple, vous prenez un œuf, vous gardez le blanc, vous jetez le jaune. Le blanc, c'est un truc gluant, sans aucune valeur nutritive, et il faut le savoir, ça. Prenez un fouet et vous tournez très vite. L'important, c'est de brasser beaucoup d'air. Si vous avez pu déployer suffisamment d'énergie, vous obtenez un truc qui semble solide et appétissant, mais qui ne contient toujours aucune valeur nutritive et qui n'a toujours aucun goût. Beaucoup de vent. Ça s'appelle un succès en librairie. Alors, il y a des auteurs plus malins qui améliorent la retraite. C'est assez simple. Toujours la même préparation, gluante et sans calories. On va ajouter une petite pincée de sel, un peu de sucre, bon, encore un peu de sucre. Et puis on tourne, on fait beaucoup d'air, comme tout à l'heure, et puis 10 minutes au four à 180 degrés. Alors là, on obtient bien entendu quelque chose de plus consistant, mais toujours pas nutritif. Ça s'appelle un livre à succès. Et puis il y a les très très malins, ceux qui n'ont pas acheté le jaune d'œuf. Ils le mettent avec un peu de lait, ils ajoutent une gousse de vanille, un petit peu, et puis ils font bouillir pendant 5 minutes. Et puis ils mettent ça avec, et là, ça on vient d'inventer la possibilité d'une île flottante. Confirmons cette parenthèse. Bon, on va refermer cette parenthèse pour revenir à notre manuscrit. Bon, si c'est mauvais, on envoie la petite lettre. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui vous l'ont reçu déjà. Malgré d'indéniables qualités littéraires et l'intérêt de votre récit, ça ne correspond pas malheureusement à notre ligne éditoriale, blablabla. Bonne chance pour la suite dans vos recherches, blablabla. Vous agréez monsieur, etc. Ou madame, parce qu'il y a des dames aussi qui m'écrivent. Bien. Bien pratique la ligne éditoriale. Faut pas froisser les égaux trop fragiles. J'ai quand même quelques auteurs qui m'ont accordé, qui m'ont accroché, qui m'ont dit on veut savoir quand même. Ouais. Enfin, moi, je suis pas ce qu'on appelle la plus un diplomate. Quand on me demande la vérité, je la dis. Alors, évidemment, des pauvres gens. Bref, c'est bon, on convoque l'auteur si c'est bon. Vous pouvez faire part de nos remarques et de nos retouches. Alors, il y a plusieurs va-et-vient après. Hein, c'est oui, tu m'en fais ça, tu me refais le début, tu m'en fais la fin. Là, ça va pas. Ta fin, c'est pas encore ça, n'est-ce pas, Gérard?
Oui.
Quatre fois à la fin. Quatre fois à la fin du 4-4. C'est la cinquième version. Et.
Oui, c'était la 5-4.
Voilà. Alors, et après, donc, si ça va bien, ben, on va au. Signature du contrat, ou une rupture définitive. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a une dame qui m'a envoyé un roman que je rêvais de publier, ça fait un an et demi qu'elle m'a envoyé un roman. J'avais presque dit oui, mais elle avait trouvé un autre éditeur. Et puis finalement, avec cet éditeur, ça s'est très très mal passé. En fait, c'est un escroc. Et puis, un escroc canadien. Ils sont redoutables aussi, ceux-là. Et donc, elle m'avait rappelé, et je lui ai dit, ouais, non, mais pas de problème, ça m'intéresse, tout ça. Donc on avait déjà discuté une fois, et puis finalement elle a dit non, ce qui l'ennuyait c'était le côté aller faire les salons après, etc. Elle pensait que c'est comme chez Gallimard, elle donnait son bouquin et après elle avait les royalties. Et puis quand je lui ai expliqué que non, c'était pas tout à fait comme ça, elle a dit non, ben, ça m'intéresse pas. Et puis il y a un mois, elle m'a rappelé en disant non, finalement, je vais quand même faire l'effort, tout ça. Et puis en un mois, elle a réussi à me casser tellement les pieds. Bah tellement, c'est pas possible. Avec des histoires de, ouais, le contrat, machin, c'est écrit en gros de la page 2, c'est écrit en les images, ouais, non mais, oui, oui, tout à fait, oui. J'ai me fait demander à Charles de me faire une belle fille, tout ça. Et puis, finalement, ouais, t'as bossé pour rien, malheureusement. Mais on garde, hein, ça peut servir. Finalement, elle a trouvé trop souriante, il fallait qu'elle fasse ta gueule, enfin, voilà, tout, quoi. Non, mais la façon dont ça se passait, je savais très bien que... Oui, non, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la façon dont ça se passait, j'étais persuadé qu'un jour ou l'autre, ça se terminerait à Nancy, en chambre correctionnelle, et que j'aurais besoin d'un avocat. Donc, finalement, je lui ai donné l'adresse de Robeline, donc... Ça se débrouille. Mais c'est dommage, parce que c'est un excellent bouquin. Voilà. En cas d'accord, bah, le texte part à la correction. On a une excellente correctrice, n'est-ce pas ? Notre amie Anne-Sophie, qui travaille parfaitement bien, qui n'est pas trop chère, donc en plus, c'est bien, c'est une sympa, c'est une amie, elle nous fait des prix. Bon, je rédige la quatrième de couverture, un texte de présentation, je le mets sur le site de Robeline, et puis je...
Non,
Denis Réga. Voilà, on va y arriver. Je savais bien que j'allais me gourer un moment ou un autre. Bon, et puis, donc, quand le manuscrit revient de correction, on fait la mise en page, on soumet une dernière fois à notre ami l'auteur, qui trouve plein de coquilles dedans, donc c'est normal, donc c'est bien. Et puis après, donc ça part chez l'imprimeur, et l'imprimeur envoie un truc magnifique qui s'appelle le bon à tirer. Le bon à tirer, c'est un truc exceptionnel, surtout pour le premier bouquin qu'on écrit. C'est la première fois qu'on voit son bouquin en format bouquin. C'est-à-dire, comme ça, il y avait des pages à l'intérieur. Et là, c'est formidable. Donc, donc là, ce bouquin, ben, on va le donner à nouveau à lire. Enfin, l'éditeur va le lire, et puis après, on va le donner à lire à l'auteur pour être sûr qu'il est bien d'accord, que tout ce qui est écrit dedans, il ne veut pas changer grand-chose, tout ça, etc. Et puis après, ben, on va l'envoyer pour enfin tirer les premiers 100 exemplaires qu'on va commencer à les distribuer dans le public. Alors, cette dernière relecture de l'épreuve, c'est un moment très important parce que il faut savoir que si on oublie quelque chose, Bah, ce petit quelque chose qu'on a oublié, il va être à 100 exemplaires. Alors, il m'est arrivé d'avoir des fautes dans la quatrième de couverture, ce qui est bien. C'est toujours bien. Pas faire de faute à l'intérieur, mais faire une faute dans la quatrième de couverture. Elle est à 100 exemplaires aussi. Alors, surtout quand on écrit « Saint-Ouen » à la place de « Saint-Ouen », comme moi j'ai écrit, et les... Alors évidemment, tous les habitants du Saint-Ouen, ouais, c'est le Saint-Ouen, c'est pas le Saint-Ouen. Oui, je sais. Alors, comme il y a marqué, dans ma bio que je suis né à Versailles, ils comprennent tout de suite, ils disent, ouais, c'est bien. Le mec, il débarque de Paris, il connaît même pas son pays. Voilà, ils sont chiants, les gens du Saint-Ouen, exactement, tout à fait. Depuis très très longtemps. Mais voilà, donc c'est la chose à ne pas faire, c'est de faire une coquille. Donc, on est extrêmement stressé. On est sur les nerfs, on fait ça à toute vitesse, en essayant de rien oublier, puis en fait il ne faudrait pas être stressé parce que c'est un moment extrêmement important. Donc on reçoit les bouquins, donc l'auteur est content, là, il dit chouette, je vais pouvoir faire mon salon. Et puis tout va bien, on a fait le tour de la question. Alors un petit mot quand même sur la rémunération des auteurs. Alors Nereia, c'est une maison sérieuse, c'est-à-dire un compte d'éditeur et non pas un compte d'auteur. C'est-à-dire que l'auteur reçoit des droits d'auteur, un pourcentage donc du prix public, sur chaque exemplaire vendu. Par contre, il ne perçoit pas d'avaloir, enfin pas encore, parce que Nereia n'a pas encore le cash pour le faire. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un avaloir, c'est le fait de donner à l'auteur une avance sur ses droits d'auteur, à la signature du contrat. Sauf qu'à la signature du contrat, on a juste fait une estimation du potentiel du bouquin. On ne sait pas combien on va en vendre. Alors, il y a quelques cas célèbres. Alors, il faut savoir que cet avaloir reste acquis à l'auteur, quel que soit le nombre de bouquins vendus. Autrement dit, si vous avez fait un avaloir pour 100 000 exemplaires et qu'on n'en vend que 8 000, eh bien, pas de chance. C'est d'ailleurs arrivé, regardez KCM. Il y a Christine Angot qui a empoché 200 000 euros d'avaloir pour le marché des amants au Seuil. Elle avait quitté Flammarion, donc le Seuil était très content de la récupérer. Et Manque de peau s'est vendu à 7 000 exemplaires. Donc effectivement, Flammarion a dû distribuer 10 000 euros et ils ont distribué 200 000. Ça c'est Flammarion, hein. Ça arriverait chez Nereia, on serait mort. Bon, c'est vrai qu'un avaloir, c'est bien, c'est un rocher, c'est content à l'auteur pour l'attirer ou pour le garder, d'ailleurs. Et puis, c'est sûr, mais il faut que l'éditeur ne se trompe pas, quoi. Voilà, ça sert à quoi? Ça sert à ça, un éditeur.
Je dors vers mes petits matins. J'ai laissé mes idées dehors, je pense plus à rien. La nuit, c'est mon petit paradis, ma récréation. Je mets sur pause la maladie et de la réflexion. Je me lève, je n'ai pas faim, nourri de questions qui me rejoignent au saut du lit comme une chanson. Comment ça s'arrête, ce petit moulin dans ma tête? Alors, voilà. Cherche de réponse, préoccupé dans ma petite bulle, y a même plus la place de m'amuser. Alors je dors vers mes petits matins, pour laisser mes idées dehors, pour plus penser à rien. Pour que ça s'arrête, ce petit moulin dans ma tête. Alors, je dors, je dors, vers mes petits matins, pour laisser mes idées dehors, pour plus penser à rien. Pour que ça s'arrête, ce petit moulin dans ma tête. Alors, voilà. Moi, je me sens, jamais seul, non. Y a toujours du bruit chez moi, toujours un peu.
assez prochainement, puisque actuellement il a été relu, il a été revu et corrigé, et c'est là que je dis, et tu t'es bien expliqué là-dessus, c'est vrai que finalement l'auteur ne sait jamais son œuvre à lui seul. À un moment donné, il y a une relecture, et heureusement, parce que vous savez, je crois qu'on en a bien besoin des uns des autres. Et on vous dit, bah oui, la fin, tel personnage n'est pas bien, ici tu t'es trompé parce que tu l'as appelé un tel, là il y a telle faute, il y a tel ou tel truc. On est tellement content d'avoir vécu son bébé, c'est le cas de le dire, qu'à un moment donné, plouf, on laisse. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait un œil neutre dessus pour relire généralement ce que l'on a fait. Et c'est vrai, là, heureusement, qu'il y a ta fille, enfin, bon, pendant 106, c'est pas parce que les parents sont là, mais enfin, elle fait ça très très bien. Elle m'a apporté beaucoup d'éléments, oui, et je dois dire que...
C'est une simple employée.
Voilà, mais enfin, l'œuvre de l'auteur, c'est jamais qu'un morceau, si vous voulez, dans l'ouvrage que l'on produit. Ça, il faut le savoir. Alors, ce que j'ai fait là, bah, c'est la suite d'un 4x4, comme dit Rémi. On a revu quatre fois la fin de celui-ci. Valait mieux comme ça, valait mieux. Et c'est toujours intéressant de prendre des idées et de réécrire, si vous voulez, son ouvrage. Alors, ce 4x4, bah, ça part d'un fait divers, tout simplement. Hein, une histoire toute bête, en gros. Le jeune couple, vous savez... 10 ans de mariage, les enfants, 2 enfants qui sont bien, qui grandissent, les sentiments qui s'émoussent un peu, les traites de la maison à payer, enfin il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et à un moment donné, il y a un 4x4 ou vitre noire, on ne sait pas qui y a dedans, qui va être là en permanence, qui va les suivre, on ne sait pas pourquoi. Et on n'arrive pas à savoir qui est dedans ce fameux 4x4. Et c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a une fin qui est bien sûr étrange, et du coup, si vous voulez, j'ai fait une suite que l'on m'avait demandé. Curieusement, c'est un bouquin qui marchait bien au livre sur la place, en particulier à Nancy, pas pourquoi. Puis les gens m'ont dit il faut une suite, il faut une suite, il faut une suite. Voilà. Alors, c'est une suite qui va se déplacer. Pourquoi du Buren? Eh bien, il y en a qui connaissent peut-être la région du Buren en Irlande. Ouest de l'Irlande, avec les falaises de Moher, des falaises monumentales, toutes noires. Voilà, à un moment donné, l'histoire va se déplacer là-bas. Alors, si vous voulez, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être tout bête, mais enfin, je vous lis 2-3 très courts passages pour vous donner une idée. Un du premier, 2 de la suite. Vous verrez que ce sera très très court. Hein. Je ne dévoile rien dans l'histoire. Ça montre un petit peu le style. Alors, ce style, bien sûr, c'est l'auteur, mais c'est aussi un... C'est aussi quelque chose qui est recorrigé, et recorrigé également en matière de faute. Alors ça, c'est intéressant, Rémi l'a dit, c'est corrigé par une association nationale, des mots passants, ça s'appelle, qui revoit toutes les fautes, qui revoit vraiment tout ce qui peut clocher dans un texte, et ça, je crois que c'est important, on en a besoin. Donc vous voyez, moi, quand j'écris, c'est pas... voilà, ça y est, premier jet, c'est bon, quand je me relis, je suis content de moi. Non, moi, je ne sais pas faire ça. Voilà. Tout bêtement. Alors, pour vous donner l'ambiance, hein, du 4x4 au bout de la rue, là, c'est la mère qui parle. Elle referma la porte d'entrée après avoir inspiré une grande bouffée de l'air frais matinal encore chargé d'humidité. La douceur qui pointait allait effacer les traces de la nuit pluvieuse. Durant le petit déjeuner, Marc et Sylvie, c'est le couple, hein, s'astreignirent à ne plus parler de cette affaire. Seul subsistant entre eux un petit quelque chose de palpable qui engendrait un léger malaise. Mais les pensées s'estompèrent au fur et à mesure que la journée avançait. Le lendemain était jour de reprise pour chacun. Ce lendemain passa, puis un autre jour. Le coup de cafard de la rentrée était passé. Le fatalisme eut le dessus. Les 2 premiers jours de reprise furent consacrés pour Marc et Sylvie à expédier des affaires courantes, à s'informer sur les derniers événements au travail. Quant aux enfants, le changement de classe au cours élémentaire n'eut rien de perturbant. À midi, ils retrouvèrent leur nounou. Chacun s'activait, retrouvant son rythme, ne songeant plus à cette histoire de 4x4, laissant ses états d'âme à propos de ce sujet en paix. C'est bien connu, les habitudes reprennent vite le dessus. Les enfants continuaient à se chamailler pour un rien, alors que Marc et Sylvie replongeaient dans des discussions sans fin, après dîner, à propos de broutilles que d'autres auraient jugées risibles. C'est ainsi, comme bien d'autres, ils vivaient l'inexorable des couples incapables d'imprimer autant un rythme leur permettant de s'occuper des choses courantes de façon équitable. Sylvie exagérait tout ce qu'elle estimait nécessiter une prise de conscience particulière. Marc s'accrochait à relativiser jusqu'au moment où sa patience vaincue. Il se fâchait et ne répondait plus. Et puis, après cette période orageuse, succédait l'accalmie pour quelques jours. Dans cette famille, comme tant d'autres, on puisait dans la vie de façon très banale, vivant les choses tristes et les choses gaies comme de simples étapes s'insinuant dans un inéluctable parcours. Et on savait s'affubler de la mine de circonstances pour sauvegarder les apparences dès qu'il le fallait. C'est juste pour vous donner une ambiance, je vous dis trois mots en plus peut-être là-dessus, puis on passera à l'autre. Si la réponse embarrassée et sans conviction suffit à Raphaël, c'est l'enfant, Nathalie, sa sœur, quant à elle, ne fut pas dupe. Elle n'esquissa même pas un sourire de connivence, restant les bras ballants à l'autre bout de la pièce, obstinément muette. Malgré les efforts de chacun, la soirée en attendant Marc fut lourde de malaise. C'était étrange cette apparition qui restait dans les esprits, fascinante, troublante, pesante, que l'on n'osait même pas évoquer tant les traces qu'elle laissait avaient un goût amer. Elle n'était plus de l'autre côté de la rue et pourtant si présente qu'on ne pouvait s'empêcher d'y penser sans cesse, entraînée dans des spéculations les plus folles qui n'avaient rien de rassurant. Quel changement ! Ce calme idiot seulement troublé par quelques lointains roulements de tonnerre transformait la maison. Elle manquait de vie. Sylvie avait pourtant si souvent pesté contre le bruit engendré par les enfants, déferlant dans les pièces, surtout quand ils se chamaillaient. Cette fois, c'était gagné, mais surtout, c'était sinistre. Voilà, ça c'est le premier. Je vous lis quelques passages également en deuxième. On retrouve donc les mêmes personnages, le couple, Marc et Sylvie, et puis les enfants, le Raphaël et Nathalie. Alors j'essaie de les prendre dans l'ordre. Pareil, un très court passage. Voilà. Le soleil encore bien présent. Alors là, on est en Irlande, je vous le dis quand même. Le soleil encore bien présent enchevêtrait ses rayons dans de lourds nuages, puis se dégageait par moments, en jetant sur l'eau mille éclats furtifs, dansant comme des lucioles. Puis à nouveau, l'océan se laissait ronger par la pénombre qui prenait l'avantage. Le disque lumineux cédait alors la place dans ce décor sauvage et désert, à des ombres inquiétantes où le noir dominait, se mouvant à toute vitesse vers la terre, emporté par des rafales puissantes. Nathalie, engoncée dans son polaire belge qui lui couvrait une bonne partie du menton, avait le teint toujours un peu trop pâle et les traits tirés, ce qui accentuait la clarté de ses yeux. Elle restait très discrète, même méfiante. La vie ne l'avait pas épargnée. Poussée par les événements, elle avait pourtant su résister à la douleur, mais avait perdu trop tôt ses rêves d'enfant. La plaie ayant tracé de profonds sillons dans son esprit avait du mal à cicatriser. Elle se cautérisait doucement, emprisonnée des souvenirs qui ne guériraient jamais, mais qui endurcissaient son esprit de jeune fille. En relevant encore un peu plus son col, elle se serra tout contre sa maman en frissonnant. Sylvie l'étreignit tendrement. Elle était ravie de partager ce séjour à la fois merveilleux et étrange avec Laurent et ses enfants. Tiens, on retrouve un nouveau personnage. Nathalie lui appartenait encore, mais pour combien de temps ? La mère et la fille échangèrent un long regard chargé d'intensité et de la complicité née de ces bien vilains souvenirs. Elles n'avaient pas besoin de se parler pour se comprendre. Elles ressentaient la même blessure, une blessure toujours prête à se rouvrir à la moindre occasion. Et leur sourire conservait inconsciemment une pointe d'acidité. Un autre tout petit paragraphe et puis on en restera là. Alors là, il y a un autre personnage qui arrive dedans, un personnage adulte, et vous verrez qu'il est, enfin pour ceux qui diront, il est au cœur de l'intrigue suivante. Qu'est-ce que je vais dire là ? Ils regagnèrent la maison rapidement, se retournant fréquemment. Fébrile, Sylvie tentait de repousser son appréhension, mais elle restait là, insidieuse, envahissant son esprit. Rapidement, elle fut oppressée, se persuadant déjà que quelque chose d'anormal se passait. Elle sentait Laurent en difficulté, fameux Laurent dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Pourtant, devant les enfants, elle s'imposait de paraître calme, de maîtriser son angoisse. Pas si simple. Déjà que depuis son enfance, elle ne réussissait pas à se contrôler dès que quelque chose partait de travers. À plus forte raison depuis cette histoire de 4x4 qui en aurait traumatisé plus d'une. Les yeux brillants et les lèvres pincées, elle composa le numéro du portable de Laurent puis se racla la gorge, se préparant à parler. Après quelques secondes, la sonnerie retentit à l'étage. Laisse tomber, maman. Son téléphone est dans votre chambre. Sylvie et Nathalie échangèrent un long regard interrogateur. Sylvie écarquillait tellement les yeux que Nathalie ne fut pas dupe quant à l'inquiétude que sa mère devait ressentir. Elle sentait monter la tension. « Maman, il faut que tu te calmes. Laurent est assez grand pour se débrouiller tout seul. Même s'il s'est perdu en revenant d'une balade matinale, il saura demander son chemin en anglais. Tant pis si on ne part pas maintenant. On va l'attendre. Mais je t'en prie, ne pense pas toujours au pire. Tu crois, mais quand même, s'en aller se promener, je ne sais où, comme ça, sans rien dire. Tu sais bien que ça me stresse. » Le ton faisait pitié. D'un coup, elle donnait l'impression d'être vulnérable. L'absence mystérieuse de Laurent l'a déchirée. Elle était désespérée de ne pouvoir communiquer avec lui et perdait tout contrôle. Elle se laissa choir sur un coin du banc, devant la table, et les coudes posés sur le plateau de chêne patiné, se prit la tête entre les mains pour réfléchir. Mais il n'y avait pas à réfléchir. Simplement, ils devaient patienter, tranquillement, tous les trois. C'était la même sensation à la maison. Même si Raphaël et Nathalie essayaient de s'occuper pendant que leur mère laissait son imagination divaguer, ils ne parlaient plus, sentant monter la crainte distillée par leur mère. Une chose était sûre, ce retard sans prévenir n'était effectivement pas normal, et le temps paraissait bien long à chacun. Voilà les dernières petites lignes, puis on en restera là. Nathalie manifestait de la lassitude. D'un coup, tout se transformait et plus rien de ce qu'ils tentaient d'entreprendre tous les trois ne lui semblait fiable. Elle avait l'impression qu'en peu de temps, tout empirait. Elle, d'habitude si calme, eut un geste excédé et partit sur le chemin de la falaise sans attendre ni sa mère ni son frère. Le séjour démarrait bien. Elle s'arrêta, ferma les yeux un court instant, marmonnant entre ses dents, priant pour que tout cela se termine rapidement et se remit en marche. Sylvie, de son côté, avançait plus lentement, observant fiévreusement chaque espace se trouvant dans son champ de vision, tout en bas de la falaise. Elle respirait par saccades, ignorant la folie des vagues. Le vent lui faisait du bien. Quant à Raphaël, ayant dépassé sa sœur, il stoppa, se mettant à l'attendre. Au moins à deux, il se reconforterait en exprimant à haute voix leur incrédulité. Trop occupée à rechercher Laurent, Sylvie ne s'attardait pas sur le spectacle. En dessous d'elle, c'était saisissant. Tel un monstre lancé à toute allure, l'océan projetait de grandes gerbes d'écume à l'assaut de la falaise, lui infligeant de terribles claques, essayant vainement de la briser, et s'en retournait sans doute déçu de ne pas y être arrivé, laissant la roche choquée, prête à recevoir un nouveau coup. Au-dessus, c'était le balai ininterrompu des oiseaux portés par les mouvements d'air, décrivant de grandes arabesques en piaillant et qui mieux mieux, piquant soudainement dans l'eau comme des flèches. L'humidité était là, sournoise mais très présente, donnant cette odeur si particulière à l'atmosphère. Voilà, bon, j'en ai peut-être assez lu, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. On est en Irlande, hein, c'est humide, c'est noir, c'est les falaises de Moher, c'est on domine la mer, il va se passer des choses. Voilà, voilà, hein, en gros, pour vous montrer un petit peu ce que l'on fait. Alors, que dire d'autre, je ne sais pas, des questions. Moi, je voyage de temps en temps, oui, puis de temps en temps, de mes voyages, je rapporte deux, trois idées. C'est vrai qu'on a écrit chez Rebline, quand Rémi était encore président, j'ai pu écrire sur la Chine, l'éveil des soldats d'argile, ça vous dit quelque chose, cette fameuse armée de 6000 guerriers de Xian, Xian qui fut la capitale de la Chine à l'extrémité de la route de la soie, et c'est là qu'il y a eu le premier empereur de Chine, Qin, qui a fondé la Chine actuelle, hein, avec ses règlements et ainsi de suite. Oui, c'était déjà un précurseur, mais c'est un fou aussi. Voilà. Enfin, il s'est fait enterrer avec 6000 guerriers, avec des chars, des arbalètes, des flèches, tout ce que l'on veut. C'était ça. Et j'ai écrit également sur le Mexique, à la crypte de Pacal. Voilà. Alors, je me base généralement sur des faits véridiques, sur des faits historiques qui ont existé. Et puis après, j'en fais un roman. Alors, bon, avec mon style, hein, c'est... Je dis, c'est encore pas marqué la littérature mondiale, mais on attend ça. Hein,
on attend ça. Ça va venir. Je te le dirai ce jour-là.
Voilà, bon, bref. Voilà, en tous les cas, je suis. Vous avez compris que j'étais. Si j'ai suivi Rémi, c'est que j'étais très heureux d'appartenir à cette toute petite maison d'édition qui fait un travail considérable et dont j'ai besoin parce que vous auriez des textes avec des répétitions, des tas de trucs. Hein, des femmes pas toujours rigolotes, enfin bref, voilà, j'en suis là.
sagement et passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent. Je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs, elle a pas une si grosse. Enfin, j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus, les pas si beaux tout nus. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement, me disait Johnny que je t'aime. Toi, t'as du talent, hein. À moi, à vous. Merci. Bah moi, je m'en fiche, je sais plus quand. Je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Depp. Et bah, il s'en remet travail, il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr, tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois, je voudrais fuir, partir de là, être sale sur une île. Bah moi je mens, mais pas à toi, parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi je mens, même si ça vous plaît pas bien, vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas finir à l'asile. Ah, je vais y aller là-bas, ça fait long. Laissez-moi tranquille, me touchez pas. Sans mon mauvais vent souffert. Ah bah moi je m'en plus depuis ce matin. Depuis que j'ai fait du chemin, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de faire remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement.
Merci de nous avoir suivis à l'MJC Beauregard. Et il était très intéressant d'avoir l'avis d'un éditeur comme Rémi Debord et les éditions Nereia, qui nous a raconté par le détail la façon dont on pouvait construire une maison d'édition et quel était l'apport pour les écrivains. Les éditions Nereia sont situées à Arroué, dans le petit village d'Arroué, et ils sont au cœur de la région Lorraine, dans cette belle région, tout près de la colline de Sion, la colline inspirée. Et puis, c'était intéressant également de connaître le contenu du futur roman de Gérard Coppens, qui sera d'ailleurs un de nos prochains invités. On reparlera encore, bien sûr, de ce roman, Les Falaises de Buren. Et puis, je ne dirai pas que Gérard Coppens anime le prix Victor Hugo, qui sera décerné lors de cette belle manifestation des Journées du Livre à Villers-les-Nancy. Et puis, nous recevrons également le président de la DIL, Charles Ancé. En attendant, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous avez, avec tous ces écrivains lorrains, de quoi satisfaire vos envies de lecture. Et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Marque-Page. Au revoir, bonne semaine.